Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission proposée par Monique Conteau-Sperber. Les listes, philosophie, rationalité et éthique du ne rien oublier au tout maîtriser, avec Bernard Sèvres. Qu'est-ce qu'une liste? Pourquoi, comment et quand rédigeons-nous des listes de choses à faire, des listes de noms, de lieux? Le sujet n'est en rien banal. La liste est une activité pratiquée de tout temps et dont la philosophie engage bien des aspects de notre rapport à l'autre, au monde et aussi à nous-mêmes. De haut en bas, philosophie des listes, tel est le titre de l'ouvrage publié tout récemment par Bernard Sèvres, aux éditions du Seuil, dans la collection L'Ordre philosophique. Bernard Sèvres est professeur à l'université de Lille 3 et est notamment l'auteur de L'Altération musicale ou ce que la musique apprend aux philosophes, paru en 2002, et de Montaigne, Des règles pour l'esprit, paru au PUF. Merci Bernard Sèvres d'être avec nous à cette occasion. De haut en bas, mais n'y a-t-il pas des énumérations, peut-être des listes, horizontales, par exemple celles qu'on trouve souvent dans les épopées et dans les ouvrages littéraires? Alors s'agit-il de listes, ces énumérations horizontales, cette fois-ci, qui ne sont pas de haut en bas?
Oui, merci d'abord Monique Conteau-Sperber pour m'avoir invité dans votre très belle émission. De haut en bas, j'ai tenu par ce titre un petit peu énigmatique à manifester une des caractéristiques les plus importantes de la liste, à mon avis, qui est la séparation des items, c'est-à-dire des éléments de la liste, des mots, si on veut, de la liste. J'ai interrogé un certain nombre de spécialistes de l'écriture dans l'Antiquité, ce que je ne suis pas moi-même, qui me disent qu'on n'aurait probablement pas eu l'idée d'écrire des listes de mots uniquement sur une colonne, simplement parce que ça gâche de l'espace. Et donc l'énumération chez Homère, par exemple, se fait à la file indienne, enfin à la queue leu-leu, mais sans que ce soit véritablement un choix, sans que ce soit vraiment le choix de l'horizontale par opposition à la verticale, tout simplement parce que on écrit comme ça. Cela dit, un archéologue m'a dit qu'il existait des stèles où on voyait quand même des noms de soldats mis de haut en bas. Voilà.
Et chez Rabelais, en revanche, on a les deux présentations.
Chez Rabelais, on a les deux présentations.
En colonne ou bien alors à la suite.
On a même des présentations plus complexes. En effet, la plupart du temps, ce sont des présentations à la queue leu-leu, mais on en a beaucoup qui sont de haut en bas et on en a qui sont en colonne double. Non pas la même colonne qui recommence sur la même page, qui se suit sur la même page, ce qui est un moyen de gagner de l'espace, mais vraiment deux colonnes parallèles.
Et cette distinction des mots que la représentation aux colonnes permet parfaitement, est-elle une exigence forte de la liste?
À mon avis, oui. Parce qu'une colonne indique par sa visualité même qu'il ne s'agit pas d'une phrase, que les mots qui sont ainsi mis les uns sur les autres, à la suite des autres, ne forment pas une phrase et qui sont donc en dehors de toute syntaxe. Ce qui fait que la colonne correspond à sa dimension non syntaxique de la liste. Maintenant, quand on lit une liste qui est écrite à la file, ce qui est très fréquent aussi, on comprend. Mais il me semble que intuitivement, on reconstitue pour ainsi dire la colonne quand bien même elle n'est pas graphiquement établie sur le papier.
Pas de syntaxe, ça veut dire pas de hiérarchie, pas de relation affirmée, de juxtaposition ou de subordination.
Exactement.
Mais tout de même, le plus souvent derrière une liste, il y a une volonté de sens ou une volonté de description, parfois même une volonté d'emprise.
Alors, il y a une volonté, il me semble que la première volonté, c'est de ne rien oublier. C'est le cas des listes pragmatiques, comme une liste de courses hein, que tout le monde fait, ne rien oublier. Mais effectivement, ne rien oublier est déjà, vous avez raison, une volonté de maîtrise et de sens, de maîtrise minimale sur une activité quotidienne, mais enfin, c'est bien une volonté de maîtrise que de ne rien vouloir oublier. Et une activité de sens aussi, car même une simple et modeste liste de courses signifie quelque chose. Au fond, nous connaîtrions les listes de courses de nos amis, on en apprendrait peut-être beaucoup sur leur personnalité.
certaines listes se présentent dans le plus grand désordre. C'est ce que vous appelez l'accumulation dispersée.
Oui, l'accumulation dispersée. Mais le paradoxe de la liste, c'est que même en désordre, elle est déjà quelque chose comme une mise en ordre. Puisque même, je reprends l'exemple de la liste de courses, qui est le plus commun, on met les choses à acheter sur le papier dans l'ordre ou le désordre dans lequel cela nous vient à l'esprit. Mais le fait de ne rien vouloir oublier signifie aussi cette mise en ordre minimale du ne rien oublier. Et donc même en désordre, c'est déjà un ordre minimal.
L'autre type de liste, c'est la liste du collectionneur. La liste, là, véritablement obsessionnelle, qui veut véritablement couvrir l'ensemble du domaine concerné.
On change de couche psychique, si on peut ainsi parler. Il ne s'agit pas seulement d'organiser son quotidien, il s'agit d'une sorte de volonté de maîtrise, presque inquiétante d'ailleurs, du monde ou de soi. Il y a là une pulsion, une compulsion, un peu farouche, et qui trouve dans la liste une bonne manière de s'exprimer et de se faire valoir.
C'est cela, mais des listes en général, qui, une fois qu'on a obtenu les objets qui y figurent ou accompli les tâches qui y figurent, les items sont rageusement barrés.
Les items sont barrés, oui.
C'est un lieu de pulsion, la liste.
C'est un lieu de pulsion, et il arrive assez souvent... je ne sais pas si vous l'avez vous-même observé, je l'observe chez moi-même, qu'on a une liste de choses à faire, on les fait toutes, on en fait une supplémentaire qu'on avait oublié d'inscrire sur la liste, et quoi que l'ait en fait, on la rajoute sur la liste pour le plaisir de la rayer, quitte à ce que le papier parte ensuite tout de suite à la poubelle. Ça montre, je crois que c'est assez fréquent cette attitude, ça montre effectivement une dimension obsessionnelle de la liste.
Mais ça, c'est tout à fait étonnant, parce que à ce moment-là, la liste n'est pas simplement la liste des choses que l'on doit faire pour oublier aucune d'entre elles, mais également la liste de ce qu'on a fait.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire de la manière dont on a rempli ses obligations à l'égard du monde. Il y a le caractère d'une reddition de compte, pour ainsi dire. On est quitte, on est en règle avec le monde.
On est quitte, on est en règle. Il y a peut-être quelque chose d'enfantin. Bon, je ne sais pas.
De rassurant, il est vrai que devant l'infinité des choses à faire, si. Si ce confort mental peut être obtenu au prix d'une liste, pourquoi pas? Alors, vous évoquez deux autres exemples de listes. La liste administrative, le droit administratif français en offre de splendides exemples. Et puis aussi, la liste absurde, la compilation, celle de Bouvard et Pécuchet, par exemple.
Oui, mais qui obéit peut-être au même ressort, aux mêmes motivations cachées. La liste absurde, on pourrait penser aussi d'ailleurs à l'autodidacte de Sartre dans La Nausée, qui veut lire tous les livres de la bibliothèque dans l'ordre alphabétique. Il y a aussi un effet de liste, ne rien perdre, ne rien oublier, ne rien laisser de côté, parce qu'au fond, la chose la plus importante se trouve peut-être dans cet item que je n'ai pas encore exploré. Et les listes absurdes n'ont évidemment pas de visée rationnelle, hein, par définition, mais elles correspondent peut-être à cette face sombre ou psychiquement inquiétante de la liste.
Vous insistez dans votre livre sur les facultés cognitives et, pour ainsi dire, morales qui sont sous-jacentes à la pratique des listes. Alors, d'abord, la mémoire. Oui. Évidemment, la liste est d'abord un outil pour la mémoire, une aide pour la mémoire. C'est ainsi que nous l'utilisons le plus souvent, Bernard Sève.
Un aide-mémoire, c'est une manière de soulager la mémoire, de délivrer la mémoire de la nécessité d'avoir à retenir.
Mais est-ce que cela ne nous induit pas dans une sorte d'obligation, ne nous entraîne pas vers l'obligation de ne rien oublier, n'oublier personne, en particulier lorsqu'on dresse des listes de ceux auxquels on va envoyer les vœux de bonne année ou de nouvelle année, ou bien la liste de ceux qu'on va inviter à une soirée où il y aura de nombreux convives? Est-ce que le seul fait de pratiquer la liste n'amène pas, au fond, inévitablement, à une certaine forme d'affairement, une gestion des relations sociales ou de l'activité qui prend inévitablement le caractère d'un empressement, d'un affairement?
J'aime beaucoup votre mot d'affairement. Il y a quelque chose comme cela dans la liste. Jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement de liste d'objets ou de liste de choses à faire. Il est vrai que la liste change de sens, je crois, ou en tout cas se surcharge de sens nouveau lorsqu'on parle de liste de personnes, ou plutôt la liste des noms de personnes à qui envoyer des vœux ou à inviter à une soirée ou à un mariage, ou ce genre de choses. Car la liste est une espèce de forme très fruste, très simple, très rudimentaire, mais qui néanmoins à la signification d'une mise côte à côte, ou plutôt d'une mise de haut en bas, sans hiérarchisation. Et du coup, envisager autrui sous l'aspect d'un item dans une liste possible a quelque chose d'abord de très déprimant et probablement éthiquement d'assez critiquable. Si on voit les autres à travers le prisme de la liste dans laquelle on pourrait les insérer, telle personne, j'enverrai mes vœux, mais je ne l'inviterai pas à telle soirée, par exemple, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement déformant dans les relations avec autrui. C'est un des dangers des listes.
La mémoire, d'une part, mais aussi l'action. Évidemment, on ordonne le réel, on ordonne la manière d'agir sur le réel. Vous avez parlé de la maîtrise, qui est peu, ou l'illusion, ou l'impression, ou la réalité de maîtrise qu'on peut ainsi acquérir sur la réalité. La liste peut-elle avoir un effet d'apaisement ?
Alors, elle peut avoir un effet d'apaisement, je crois, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle rassure, mais ça nous l'avons dit au début de notre conversation. Ensuite, parce qu'elle permet au sujet, d'une certaine manière, de se retrouver lui-même. Peut-être que les listes portant sur le passé seraient à distinguer ici des listes portant sur le futur. Le futur est indéfini par définition, et il y a quelque chose d'extraordinairement stimulant et en même temps d'inquiétant. Bon, le passé est fermé. Ça peut signifier aussi la nostalgie, le regret, la mélancolie, mais ça signifie aussi qu'il n'y a plus d'action à faire. Et il peut y avoir un effet de réconciliation avec son propre passé. Bon, dans le fait d'écrire des listes, je pense à ce que Robert Belknap appelle les Ubisoft poèmes, mais où sont les neiges d'antan. Bon, en fait, il y a beaucoup de poèmes, de chansons populaires qui sont structurées autour de cette idée où sont, et l'idée d'une sorte de neutralisation des différences du passé peut avoir un côté apaisant, encore une fois avec une touche de mélancolie.
Et pour les listes qui ont trait au temps futur
Les listes qui ont trait au temps futur, je crois qu'il y a de très différentes manières de les vivre. On peut les vivre comme une série d'obstacles à franchir, comme une sorte de pédagogie par objectif, si on peut dire. On peut aussi être pris dans le vertige de la liste, pour parler comme Umberto Eco, et se dire qu'on n'y arrivera jamais. Et que la liste des mails en retard auxquels je dois répondre, je préfère ne pas y penser parce que c'est parce que ça fait peur. Pour prendre un exemple extrêmement simple, cette liste des choses à faire ou qu'il faudrait envisager ou des pays qu'il faudrait visiter ou bref, peut avoir deux effets ou plusieurs effets totalement antinomiques.
Oui, c'est particulièrement frappant si je peux commenter ce que vous dites, parce que la liste en effet peut être la manière d'instaurer un rapport d'excitation, d'emportement à l'égard de l'avenir, oui. De plus en plus de choses à faire sous prétexte que c'est consigné dans une liste. Mais d'un autre côté, face à l'angoisse diffuse que l'on ressent parfois devant l'impression de n'être pas à la hauteur de tout ce qu'il y a à faire, en dresser la liste et peut-être hiérarchiser ces choses-là est un élément de réconfort. On passe d'une angoisse sans contour précis à bien un ensemble d'objectifs, fussent-ils nombreux à réaliser.
C'est vrai, avec dans cette interprétation-là, qui est tout à fait exacte, un danger supplémentaire et assez rusé. Vous savez comme moi que parfois on n'a pas le temps de lire un article, on le photocopie, et l'ayant photocopié, on le scanne, on le met de côté, on ne le lira jamais. On s'imagine que l'ayant photocopié, c'est comme si on l'avait lu. Il arrive des choses un peu semblables avec les listes de projets pour l'avenir, les ayant itemisés, on peut dire ça en anglais, mais en français on ne le dit pas, mais les ayant mis en liste, c'est comme si on les avait fait à moitié et on ne s'en occupe plus. Ça peut arriver aussi. Mais c'est peut-être une forme de sagesse tout à fait paradoxale.
Oui, enfin, des accords et des complicités qu'on a avec soi-même. Ce serait insupportable de ne pas faire la photocopie, mais on sait très bien que ça n'aura pas davantage d'effet que si on décidait tout simplement de ne pas lire l'article.
C'est exactement ça.
Pour terminer sur cette vertu d'apaisement des listes, prenons le cas d'une difficulté psychique, une angoisse particulière, dans une période de difficulté personnelle. Oui. Le fait, en supposant que cela soit possible, qu'on arrive à prendre une certaine distance sur soi-même, qu'on individualise autant que faire se peut les éléments de son trouble ou de son inconfort psychique, et qu'on les extrait en quelque sorte d'un magma d'angoisse, mais qu'on les individualise, le fait qu'on les explicite inévitablement avec un mot clair qui les désigne, le fait peut-être qu'on les ordonne, est-ce que toutes ces opérations ne peuvent-elles pas avoir une vertu d'apaisement, de distanciation, et elles sont pourtant tout à fait liées à la logique de la liste.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et j'aime beaucoup le mot magma. C'est vrai que la liste sort du magma, la liste émiette, c'est une force extrêmement puissante que cet émiettement que la liste produit. La liste fonctionne comme une sorte de filtre en même temps, et par là même, les connexions louches, opaques, troubles entre les éléments du magma sont pour ainsi dire évacués, parce qu'il n'y a plus que des objets sans relation. La liste nous délivre des relations entre les éléments. Et de ce point de vue, cela peut avoir un effet très, très apaisant en profondeur. Les choses ne sont que ça. Quand fait un inventeur après décès, bon, ça arrive toujours dans la vie à un moment, de devoir trier des objets, faire des listes, ce qu'on donne, ce qu'on vend, ce qu'on garde, ce qu'on doit jeter. Cette espèce de mise à plat des objets qui relèvent de la liste, même si c'est pas forcément une liste écrite à proprement parler, a un côté de démagmatisation. Et c'est vrai que ça peut être tout à fait apaisant.
Et ça met un terme aux amalgames.
Et ça met un terme aux amalgames.
Précisément par cette vertu que vous avez d'emblée soulignée, le fait qu'il y a discontinuité totale entre les mots. Mais d'ailleurs, à propos de toute question, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Et on énumère les seuls caractères qui sont énumérables. Et souvent, l'effet d'ensemble est beaucoup moins impressionnant que celui que l'on ressentait avant ce travail de décomposition. Alors, nous devons évoquer maintenant les livres qui, d'une certaine manière, les ouvrages et les auteurs qui vous ont précédé dans ce travail sur les listes, même si sur bien des points, vous vous démarquez de leurs apports et vous proposez une analyse tout à fait nouvelle. Il y a d'abord le plus ancien, celui que vous citez en particulier dans le chapitre sur qui est le plus lié au problème de la rationalité, le livre de l'anthropologue anglais Jack Goody.
Jack Goody, oui, qui est toujours en vie, je crois, et qui continue à travailler à plus de 90 ans, et qui a publié il y a une trentaine d'années, maintenant un peu plus, en 79 en anglais, « La raison graphique, domestication de la pensée sauvage », qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, en effet, qui est un livre fondamental sur la rationalité de l'écriture, sur les effets de rationalisation que l'écriture, non pas encore l'écriture par liste, mais l'écriture tout court, permet l'objectivation, la mise côte à côte, décontextualisation des énoncés, etc., etc. Et dans tout ce travail sur les effets de rationalisation que les opérations d'inscription graphique permettent, il dégage notamment la possibilité de faire des listes et des tableaux. Les tableaux, un tableau étant au fond une combinaison d'une liste verticale et d'une liste horizontale, enfin pour le tableau à double entrée. Et il insiste beaucoup, et ça m'a effectivement beaucoup marqué, sur le caractère fondamental de prise de distance avec le réel naturel ou le réel social, que la mise en liste permet. La liste d'un seul coup, c'est la promotion, au moins au moment de l'invention de l'écriture, la promotion du langage à la hauteur d'une véritable puissance. Le langage n'est plus englué dans les choses, dans les relations avec la nature, avec les dieux, avec les puissances obscures et avec les autres êtres humains. Le langage devient lui-même un instrument que l'on peut examiner. Et d'ailleurs, Goody montre bien que dès les origines de l'écriture, l'écriture a servi d'une part à faire des listes, disons, administratives et militaires, mais d'autre part, à faire des listes de verbes irréguliers ou de mots différents désignant telle ou telle activité humaine.
Donc la pratique de la liste permet au langage de jouer pleinement son rôle d'outil, c'est-à-dire ne plus être rattaché à cette compacité uniquement référentielle à la chose.
Tout à fait.
De pouvoir circuler entre les choses.
La liste, d'après Goody, hein, les premières listes font apparaître le langage comme un instrument. Et donc le langage devient un instrument de rationalisation du monde, mais la liste devient un instrument de rationalisation du langage.
Oui, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que la manipulation de la forme, c'est-à-dire la liste, a un impact sur la nature même de la rationalité et sur le rapport au monde que de nouveaux usages de la rationalité permettront progressivement d'introduire.
Alors je ne suis pas anthropologue de métier, loin de là, hein, et donc je dis des choses que Goody n'approuverait peut-être pas. Hein, mais on a l'impression, en lisant Goody, que la pratique de la liste permet une démythologisation du langage, une désacralisation du langage. Ce qui est d'une certaine façon un très grand service à rendre au langage.
Mais n'est-ce pas la condition du langage utilisé à des fins de critique, d'analyse, de réflexion, et donc la condition même de la philosophie ?
Tout à fait. La liste a par elle-même une dimension de critique possible, ne serait-ce parce que qu'encore une fois on met côte à côte des éléments ou des items différents et qu'on peut les comparer.
L'autre auteur que vous citez abondamment et qui a abordé la question de la liste sous une autre perspective est Georges Perec.
Oui.
Alors, l'ouvrage plus récent.
Georges Perec, d'une part, a beaucoup pratiqué les listes lui-même, à des fins à la fois thérapeutiques, ludiques et comme technique d'écriture. Il faisait partie, comme chacun sait, de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui se donne des impératifs à la fois logiques, mathématiques et formels pour écrire des textes de fiction ou des textes littéraires en général. Et la liste est un de ces moyens. Donc il en use beaucoup dans La vie mode d'emploi, qui est un de ses chefs-d'œuvre, il y a énormément de listes. Mais il a aussi réfléchi sur la liste, notamment dans un petit recueil de textes qui s'appelle Pensées classées, où il y a une vision très profonde de l'ambiguïté de la très grande ambiguïté que nous avons par rapport aux listes. D'un côté, on veut que rien n'échappe, et de l'autre, on cherche quand même l'objet qui pourrait échapper à toute liste.
Alors, permettez-moi de citer Perec, justement, et dans les quelques pages où vous analysez ce texte, donc extrait de Pensées classées, paru en 1985. Il y a dans toute énumération deux tentations contradictoires. La première est de tout recenser. La seconde, d'oublier tout de même quelque chose. La première voudrait clôturer définitivement la question, la seconde, la laisser ouverte. Et un peu plus loin, il y a dans l'idée que rien au monde n'est assez unique pour ne pas pouvoir entrer dans une liste, quelque chose d'exaltant et de terrifiant à la fois.
Je trouve que c'est parfaitement exact et que la liste est le point d'intersection, ou peut-être plutôt le point de choc, entre la puissance de l'entendement et la puissance de la nature, ou si on préfère la puissance du réel. La puissance de l'entendement, parce qu'au sens hegélien d'entendement, la liste, c'est l'opération de l'entendement par excellence. Diviser, morceler, classer, disjoindre, séparer, émietter, c'est l'entendement. Cette puissance à laquelle rien ne résiste, dit Hegel. Et d'un autre côté, l'entendement, d'une certaine façon, est aussi heureux de découvrir que, si puissant qu'il soit, la nature l'est encore plus. Et que quelque chose dans la nature, au sens le plus large du mot nature, hein, quelque chose dans la nature ne se laisserait pas ainsi mettre dans une liste.
Et c'est l'ambition de l'homme d'essayer de le trouver, ce quelque chose.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi d'autres travaux que vous citez dans votre ouvrage, et dont je vous avoue, je n'avais pas bien apprécié l'importance sur les très nombreux usages de la liste. Plusieurs universitaires érudits ont étudié les listes dans la littérature médiévale, dans l'épopée homérique, oui. Ça c'est bien évident, et dans maints autres corpus. Ça, vous en faites une présentation et une analyse tout à fait remarquables.
Oui, les travaux de Madeleine G. sur l'usage des listes dans la littérature médiévale, ou de Sylvie Persaud dans ce qu'elle appelle l'énonciation en catalogue dans la littérature homérique, ont été pour moi des véritables découvertes aussi, hein, quand je suis arrivé à ces travaux, qui sont d'ailleurs assez récents, hein, qui ne sont pas très anciens, mais qui sont, je trouve, extrêmement, extrêmement féconds, et qui m'ont d'ailleurs fait changer d'avis sur un point. Je le dis d'ailleurs dans le livre, je pensais vraiment que la liste était absolument antinomique à toute idée d'une énonciation dans lequel le sujet s'engagerait, un engagement de nature éthique. Et aussi bien Madeleine G. pour la littérature médiévale que beaucoup plus fortement encore Sylvie Persaud pour la littérature homérique montre qu'il y a des formes d'usage de la liste, très codées bien sûr, dans des formes littéraires qui ne sont plus les nôtres et que parfois nous avons un peu de mal à comprendre, d'où l'intérêt de ces travaux, mais que dans certaines de ces formes littéraires, donc, la liste peut avoir au contraire le sens tout à fait inattendu d'un engagement du sujet. D'un engagement du sujet parlant, du sujet qui énonce la liste, du sujet qui profère la liste, et qui veut montrer, comme dit Sylvie Persaud, un savoir à facettes, la multiplicité, la complexité des choses qui sont dites dans la liste. Un type de savoir et de communication à autrui qui passe, non pas malgré la liste, mais grâce à la liste.
Il faut dire que c'est assez grandiose. Je n'ai plus de phrases à faire, juste des éléments de liste à vous donner, et j'y suis tout entier. C'est une attitude humaine tout à fait vertigineuse et fascinante.
Oui.
Nous parlons des listes. Vous écoutez France Culture, bien évidemment, et c'est Question d'éthique, Bernard Sève et mon invité. Pouvons-nous essayer de revenir au cœur du sujet et... en particulier de distinguer précisément la liste, le catalogue et l'inventaire. Parce que vous insistez sur le fait que, évidemment, de manière très... qu'on peut, d'une certaine manière, appeler catalogue et inventaire des listes. Mais vous insistez aussi sur des traits caractéristiques qui les distinguent. De même que liste et ensemble se distinguent. pour une raison qui a trait au type d'ordre établi entre les items.
Alors, la distinction à laquelle je tiens, qui me paraît la plus importante, c'est celle entre liste et ensemble. Ma position est la suivante. Un ensemble regroupe des objets. Une liste regroupe des mots. Des substantifs, des adjectifs, des verbes, mais des mots. Une liste ne peut pas être constituée d'objets. Ce qui est constitué, on peut parler de l'ensemble des fleuves du monde dépassant 1000 kilomètres. Je ne saurais pas vous en donner la liste d'ailleurs, mais il y a certainement un ensemble constitué des fleuves qui ont plus de 1000 kilomètres de leur source à la mer. Cet ensemble contient des objets réels que l'on peut peut-être comparer sous telle ou telle caractéristique physique ou autre. Une liste contient uniquement le nom de ces fleuves. Et donc, très souvent on dit liste d'objets, la liste des maîtresses Henri IV, bon, par exemple. Dans le langage courant, ça ne pose aucun problème. Mais dans une approche vraiment rigoureuse, intellectuellement conséquente, il faut bien distinguer la liste qui porte sur des mots et l'ensemble qui contient des choses. Alors, ce qui complique les choses, c'est qu'on peut considérer la liste comme un ensemble. On peut très bien considérer la liste comme un ensemble dont les éléments, et non plus les items à ce moment-là, sont les mots eux-mêmes. Et ça, c'est une approche grammairienne, réflexive. C'est un peu celle que nous évoquions tout à l'heure en parlant de Jack Goody, quand il dit que la liste permet de faire du langage un objet qui va être à son tour étudié et rationalisé. Donc une liste est en même temps un ensemble des items de cette liste. En revanche, je crois qu'un ensemble n'est jamais une liste.
Mais donc l'alphabet est une espèce de liste. Le catalogue aussi, un inventaire, est une forme particulière de liste. Un répertoire, un annuaire, un agenda, tout ça, ce sont des listes.
Ce sont des listes. Alors ce sont des listes qui ont des noms différents, qui d'ailleurs très souvent se recoupent dans l'usage courant du langage. Et je n'ai pas cherché à mettre une systématicité qui aurait été artificielle et qui ne correspond pas à l'usage effectif. Catalogue, inventaire, annuaire, ce sont des types de listes qui sont singularisés ou particularisés dans des usages sociaux définis. Un inventaire concerne l'inventaire annuel qu'un grand magasin fait de ses réserves, par exemple, de ce qui est disponible dans le magasin. Ça correspond à un certain type d'activité pratique. Un catalogue, si c'est le catalogue d'une exposition ou si c'est le catalogue d'un artiste ou d'un musicien, correspond à une autre idée encore. Par exemple, si on fait un inventaire pour remplir les cases manquantes. En revanche, on ne fait pas un catalogue pour compléter quoi que ce soit. Autrement dit, le catalogue donne un état passé, la liste des cantates de Bach et le catalogue des cantates de Bach est clos. Peut-être un jour aura-t-on la chance d'en trouver une parmi celles qui ont été perdues, mais en soi, ce catalogue est clos. Il ne nous incite pas à faire quoi que ce soit. Un inventaire peut nous inciter à faire quelque chose. De même, l'annuaire ne nous incite pas à ajouter un nom. L'annuaire est parfaitement clos. Toutes ces listes, d'ailleurs, qui ont des noms techniques, comme annuaire, comme inventaire, comme catalogue, il y en a beaucoup d'autres.
Recensement aussi.
Oui, recensement. Toutes ces listes concernent le passé ou le présent. Aucune, sauf erreur de ma part, ne concerne l'avenir. Les listes concernant l'avenir, par définition, n'ont pas de nom technique, juridique ou administratif, précisément parce que elles sont le moment d'ouverture, enfin, si j'ose dire, si vous me passez le mot, de la liberté.
La liste des choses à faire.
Donc. La liste des choses à faire.
Les opérations cognitives et graphiques qui sous-tendent la pratique de la liste sont très précisément étudiées dans votre ouvrage. Alors, liste écrite ou orale ? La liste est faite pour être écrite, en premier temps.
Je vais de nouveau citer Jack Goody, qui d'une part insiste sur la dimension graphique de la liste, mais qui précise bien que avant l'invention de l'écriture ou dans les sociétés sans écriture, il y a des listes. Il y a des listes qui sont des listes souvent poétiques, politiques et religieuses ou mythologiques, et souvent un mélange de ces quatre
donc,
fonctions.
Des listes, quand les listes sont orales et lues, ce sont des listes dont on attend un certain effet, et
tout
pas des
fait.
Listes qui visent à décrire l'état du monde, enfin, en tout cas, dont ce n'est pas le premier objet.
Tout à fait. Mais ces listes qui sont souvent des listes à visée magique, des listes à visée d'efficacité, ce ne sont pas des listes qui sont au service de la rationalité, pour parler très très vite. Ces listes poétiques dans les sociétés sans écriture, ces listes existent, il y a donc bien une fonction liste dans le langage antérieurement ou indépendamment de l'usage de l'invention de l'écriture, mais ces listes sont essentiellement des comment dirais-je, des listes à visée politique ou religieuse.
Ou mémorielle, parce que d'une certaine manière, on peut considérer que cet usage a persisté, même dans nos cultures du XXIe siècle.
Tout à fait, c'est la liste dans de très nombreuses sociétés sans écriture. Les ethnologues ont découvert des cérémonies consistant à proclamer la liste des ancêtres. Et cette liste des ancêtres est à la fois destinée à les apaiser, à se réclamer d'une lignée, à raconter une histoire, et donc une fonction de mémoire et une fonction de construction du présent et de l'avenir. Alors, il faut préciser tout ça parce que j'insiste beaucoup sur la dimension graphique de la liste. Il ne faut pas méconnaître qu'il peut exister des listes en dehors de l'univers, enfin de ce qu'on appelle parfois la graphosphère. Il me semble quand même que dans les sociétés qui connaissent l'écriture, ce qui est éminemment le cas de nos sociétés, la liste ne peut plus être séparée de ces opérations graphiques qui lui ont donné sa couleur rationnelle, ses possibilités critiques.
Mais la liste écrite, qui donc vise des fins en partie de description et de connaissance, peut être conciliable avec un usage oral de cette même liste. Par exemple, lorsqu'on lit des listes des morts, afin de décrire, c'est pas afin de connaître, ces listes sont parfaitement connues. Mais c'est afin de produire un certain effet, un effet de mémoire, de préoccupation, de souci, de concernement, si on peut dire.
Alors là, vous ouvrez un champ immense de pratiques qui sont très importantes sur le plan éthique, sur le plan politique, sur le plan du rapport à soi-même. Si on prend les pensées de Marc Aurèle, tout le livre 1 des pensées pour moi-même, enfin de Marc Aurèle, c'est au fond une liste, un peu commenté, une liste de gratitude envers les personnes qui, à un titre ou à un autre, l'ont marqué. Et ce geste de reconnaissance de l'empereur stoïcien au début de son livre, à lui-même adressé, a quelque chose d'extrêmement profond sur le plan intellectuel et littéraire, mais sur le plan éthique également. Et je crois qu'aucune société ne peut se passer de la profération privée ou publique de listes, que ce soit les litanies dans la religion catholique, par exemple, mais toutes les religions connaissent des pratiques de ce type-là, ou vous l'évoquiez à l'instant, la lecture publique de la liste des morts, qui s'est beaucoup faite en France entre les deux guerres, notamment la liste des morts de la guerre de 1914, ou la liste de Yad Vashem de la liste des victimes de la Shoah, et la liste de ces proférations publiques pourrait être allongée, évidemment. Et ce qui se joue dans cette... je crois qu'il se joue deux choses dans ces proclamations publiques de listes qui sont par ailleurs enfin des listes de noms propres et de personnes en général mortes, et en général mortes dans des conditions terribles. Il se joue deux choses. D'une part, le respect pour chacune de ces personnes prises une à une dans son nom propre. L'aspect d'émiettement ici change de sens. C'est pas l'émiettement au sens négatif du terme, c'est vraiment la promotion de la valeur de chaque nom propre en tant qu'il est l'identité d'une personne. Ton nom n'a pas été oublié. Tu es mort de telle manière, ton nom n'a pas été oublié. C'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect de ces proférations publiques, c'est une sorte d'engagement de la communauté, de ceux qui lisent, qui profèrent ces noms. En général, c'est pas une seule personne d'ailleurs, c'est plusieurs personnes qui se relaient pour proférer les noms des très nombreux morts et la communauté des vivants qui se reconnaît aussi, je ne veux pas dire une dette, mais un lien privilégié avec les morts dont la liste est lue publiquement. Il y a quelque chose qui est très très important et qui est une des possibilités les plus belles, je crois, de la liste.
La liste peut-elle jeter une intelligibilité particulière sur le réel ? Dans votre ouvrage, vous analysez un exemple tout à fait étonnant. Bon, Pascal est très souvent cité, oui, évidemment, à propos des listes. Pensée 425 du classement La Fuma. Vous mentionnez les deux listes que Pascal écrit. La première vise, dites-vous, à épuiser le genre humain. Tandis que la seconde a une autre portée. Alors peut-être que je vais d'abord lire le texte puisque je l'ai sous les yeux, et puis vous le commenterez si vous voulez bien, Bernard Sève. Première liste. Tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades, de tout pays, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions. Deuxième liste. Lui seul, Dieu, est son véritable bien. Et depuis qu'il l'a quitté, c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable de lui en tenir la place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel. Comment s'aménage le rapport entre ces deux listes ?
C'est un texte tout à fait fascinant que vous venez de lire, hein, de Pascal. Donc, alors la première liste, et en fait c'est un tableau, ou plutôt c'est un liste, ce sont deux colonnes parallèles qui finissent par se rejoindre. Le début de la liste de Pascal, il veut épuiser le genre humain, il veut montrer que tout le monde recherche d'être heureux et que personne n'arrive à l'obtenir. Il va tâcher de convaincre son lecteur, Pascal, que c'est en devenant chrétien et bon chrétien qu'il parviendra au vrai bonheur. Bon. Et donc la liste, la première que vous ayez lue, commence par des listes de couples. En vieux, jeune, roturier, noble, homme, femme, jeune, enfin bon, voilà. Et ce couplage de deux qualités incompatibles, on n'est pas à la fois jeune et vieux, ni noble et roturier, vise à montrer, simplement avec quelques items, il lui en faut peu, l'esprit humain comprend très vite, enfin le lecteur de Pascal comprend très vite, qu'il veut dire donc la totalité. Et d'ailleurs, il comprend.
Exhaustivité.
Voilà, exhaustivité. De tous âges, de toutes conditions. Bon, au terme de cette liste, mais très bien écrite, hein, puisqu'elle commence par des couples et se conclut par de tous âges, de toutes conditions, etc. C'est très bien fait, rhétoriquement parlant, et le lecteur comprend que personne n'échappe. Là, la liste n'a pas d'absent. Il n'y a pas d'absent de la liste possible. Alors la deuxième liste est entièrement différente, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle soit écrite 3-4 lignes après la première, puisqu'il s'agit au fond, il s'agit d'écrire une sorte de liste des idoles. L'idole, c'est quand le vrai Dieu est absent. L'idole, c'est le faux Dieu qui prend la place du vrai Dieu. Et donc, l'homme ayant perdu le vrai Dieu par sa faute, pense Pascal, tout... Comme l'homme ne peut pas se passer de Dieu, hein, tout homme a un Dieu ou une idole, selon la formule très connue, l'homme ne pouvant pas se passer de Dieu, il le remplace par des faux dieux. Et il y a une liste qui est potentiellement indéfinie, d'où le caractère baroque et un peu poétique d'ailleurs de cette liste Pascal, où on trouve choux, poireaux, insectes, enfin à côté de
fièvre, peste,
etc. Bon, Pascal veut montrer qu'absolument n'importe quoi peut devenir faux dieu, idole, Dieu étant absent. Et ce qui est très intéressant dans cette liste, tout son côté littérairement très réussi, mais c'est le contraire de la réussite littéraire de la première.
Oui.
Voilà. Ce que veut montrer Pascal, c'est que l'infinité de Dieu est ici remplacée par une sorte de grimace, de caricature grimaçante, qui est l'indéfinité. L'indéfinité, au sens du mauvais infini de Hegel, c'est-à-dire on peut toujours rajouter un élément de n'importe quoi.
La première liste a une visée cognitive, elle jette une intelligibilité, elle construit une exhaustivité en montrant quels sont les partages pertinents. La seconde liste, au contraire, en quelque sorte, donne pour miroir au véritable bien que Dieu est à lui-même, l'infinité inénumérable, enfin interminable des objets.
Voilà, la fausse infinité inénumérable des objets extravagants qui peuvent devenir idoles, le vrai Dieu étant absent. Et la liste ici apparaît sous un autre aspect, non plus l'exhaustivité, mais au contraire l'interminabilité.
Mais dès qu'on voit une liste, si je peux m'éloigner du contexte que nous venons d'évoquer, et dès l'enfance, à vrai dire, une sorte de diable actif en l'esprit humain cherche toujours l'élément qui n'appartient pas à la liste. C'est ce que les jeux pour enfants anglais appellent le one which does not belong.
Oui.
Cet intrus de la liste, ce qui ne devait pas y trouver et que inévitablement on cherche dès qu'on regarde une liste. Certains rédacteurs de listes ne peuvent pas résister à la tentation de le mettre et de le faire chercher. Pourquoi ce goût pour l'intrus de la liste ?
Ce goût pour l'intrus dans la liste. Alors j'imagine que cela procède déjà d'un degré de culture de la liste plus développé. Encore qu'il y a un petit côté enfantin, vous venez de le rappeler vous-même là-dedans. Mais la liste est un instrument. C'est un instrument très souple, très, très rudimentaire, et en même temps extrêmement puissant. Et on a aussi envie de jouer avec cet instrument. Et on a surtout envie de jouer avec la personne qui va s'en servir. Bon. Et donc, proposer une liste à quelqu'un en y mettant un intrus, c'est tendre une sorte de piège, pas très méchant, mais une sorte de piège pour l'autre, pour voir si l'autre va percevoir ce dont il est question. Le risque, évidemment, d'une liste, comme une liste n'a pas de structure syntaxique, comme une liste est faite d'accumulation de mots, c'est évidemment par mégarde d'y mettre quelque chose. Il n'y a rien comme une faute de grammaire qui puisse attirer l'attention, par exemple. Il n'y a pas de grammaire.
Donc juste un sentiment d'absurdité. Quelque chose ne va pas.
Donc juste un sentiment d'absurdité, quelque chose ne va pas.
Et qui fait rire, parfois.
Et qui fait rire. Et puis, ça correspond à l'aspect ludique de la liste. La liste est aussi un jeu.
Impossible de ne pas citer l'encyclopédie chinoise de Borges.
Bien sûr.
Si vous le permettez, je vais lire le texte dont vous faites une magistrale analyse. Dans les pages lointaines de ce livre, il est écrit que les animaux se divisent en A appartenant à l'empereur, B embaumé, C apprivoisé, D cochon de lait, E sirène, F fabuleux, G chien en liberté, H inclus dans la présente liste, I qui s'agite comme des fous, J innombrable, K dessiné avec un très fin pinceau de poils de chameau, L etc., M qui viennent de casser la cruche, N qui de loin ressemble à des mouches. Quel est l'effet attendu de cette liste ? Et en quoi le inclus dans la présente liste est-il ou non un intrus ?
Alors, inclus dans la présente liste, on pourrait penser que c'est un paradoxe de type logique, un peu comme les paradoxes de Russell, mais je crois que ce n'est pas le cas, parce que les éléments d'une liste soient inclus dans la liste n'est pas un paradoxe. Le paradoxe de Russell, c'est si on prend la totalité de la liste comme étant un élément d'elle-même. Ça crée un paradoxe bien connu, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. Que cherche Borges ? Parce qu'on lit toujours ce texte, au fond, en dehors du texte dans lequel il se trouve chez Borges. Borges s'amuse. Il s'amuse beaucoup et Michel Foucault, qui a commenté ce texte, beaucoup de commenté le texte, mais Michel Foucault, je crois, est le premier à avoir remarqué qu'il y avait quand même une grande bizarrerie, c'est que cette liste était présentée avec des numéros d'items qui sont des lettres de l'alphabet. Or, il n'y a pas d'alphabet, puisque l'écriture chinoise est une écriture idéogrammatique, et donc immédiatement, le lecteur attentif sait qu'il s'agit d'une fausse liste, inventée par Borges lui-même, qui s'amuse. L'effet attendu, c'est un effet de drôlerie, c'est un effet de décalage, je crois que c'est exactement le double effet qu'on va attendre d'une liste, c'est-à-dire d'un côté une encyclopédie et de l'autre côté le désaveu de l'encyclopédie. Borges, qui a été toute sa vie fasciné par les encyclopédies, et qui lui-même écrivait d'ailleurs des textes courts, contraire, il n'écrivait pas de romans fleuves ni même de romans, il écrivait des poèmes et des nouvelles. Et des essais, bref. Je crois qu'il y a un rapport entre la brièveté et la liste.
Mais tout de même, quand on lit une liste, on cherche ce qu'il y a de commun entre les différents items.
Oui.
Là, il apparaît clairement qu'il n'y a absolument rien de commun. Donc, n'est-ce pas une incitation à créer une nouvelle logique ou du moins à s'efforcer de...
Moi, je crois qu'il a cherché Borges et qu'il a parfaitement réussi. Je vais pas compter, mais il y a une quinzaine d'items, je crois, dans cette courte liste. Il a cherché le maximum de diversité dans les critères qui pourraient être des critères de classification. Il me semble qu'il a cherché non pas seulement des choses hétérogènes comme Prévert dans son célèbre inventaire, non pas seulement des choses hétéroclites, mais des choses qui pourraient être rapportées les unes aux autres par des critères eux-mêmes hétéroclites. Voilà. Par exemple, les animaux dessinés avec des poils de chameau, les animaux qui viennent de casser la cruche, c'est deux manières, quand ils ont hétéroclites, d'envisager les animaux.
Vous écoutez France Culture, c'est question d'éthique. Bernard Sèvres nous parle des listes. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombre, tome 2, livre 40. Combien s'agitait d'ambition parmi les acteurs de Vérone ? Que de dessinées de peuples examinées, discutées et pesées ? Faisons l'appel de ces poursuivants des songes, ouvrons le livre du jour de colère. Monarque, prince, ministre, voici votre ambassadeur, voici votre collègue revenu à son poste. Où êtes-vous ? Répondez. L'empereur de Russie, Alexandre, mort. L'empereur d'Autriche, François II, mort. Le roi de France, Louis XVIII, mort. Le roi d'Angleterre, Georges IV, mort. Le roi de Naples, Ferdinand Ier, mort. Le duc de Toscane, mort. Le pape Pie VII, mort. Le roi de Sardaigne, Charles-Félix, mort. Le duc de Montmorency, ministre des Affaires étrangères de France, mort. Monsieur Canning, ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, mort. La liste est une figure du destin.
Une figure ?
Du destin.
Une figure du destin. Une figure du destin, ce texte de Chateaubriand, que d'ailleurs j'ai coupé parce qu'il était très long, je n'en ai donné que le début. Ce texte de Chateaubriand me paraît typique d'un rapport à la fois littéraire et un peu religieux avec la liste. Étant entendu que Chateaubriand, à la fois, qui est assez âgé quand il écrit ce passage, à la fois à la satisfaction d'être encore vivant et de pouvoir faire l'appel de ses anciens camarades, si on peut dire, du congrès de Vérone, qui fut un grand congrès politique auquel Chateaubriand participa, en même temps, il écrit ça dans les mémoires d'outre-tombe, il sait qu'il est l'item à venir dans la liste. Et que dans l'etc. implicite qui suit cette liste, il y a le nom François-Auguste de Chateaubriand, ou François-René de Chateaubriand.
Donc l'homme vieillissant près de sa tombe, jetant un regard vers le jeune homme qu'il fut, ce qui est l'orientation générale des mémoires d'outre-tombe. Mais là, dans ce catalogue qui rappelle Homère ou Virgile,
oui, tout à fait.
Véritablement, c'est l'appel des morts.
C'est l'appel des morts.
On sent tout de même aussi une expression de la fatalité. Nul n'y échappe. Il y a eu des ambitions, il y a eu des désirs, des souhaits, des plans, des manœuvres, et tous sont à la même enseigne, morts.
Voilà, vanitas vanitatum, tout est vanité.
Et la liste sert particulièrement bien à montrer cela.
Et la liste sert particulièrement bien à montrer ça. Oui. Mais elle peut montrer autre chose, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a d'autres listes, j'en donne des exemples dans le livre, comme celle de l'abbé Grégoire que j'évoque à la fin du livre, faisant la liste des grands ancêtres jansénistes, où on sent une continuité, une filiation, et où l'accent est mis, non pas sur la mort des individus, comme celle de Chateaubriand, comme dans la liste de Chateaubriand que vous venez de lire, mais où on voit au contraire la filiation, le passage du témoin, le passage de la vérité, par exemple, ou d'une valeur partagée, d'une génération à une autre, ou d'un individu à un autre. Et l'orientation de la liste est à ce moment-là tout à fait différente.
Là, c'est clairement une transmission ininterrompue, une mise en scène d'une transmission ininterrompue.
C'est une transmission, la mise en scène d'une transmission ininterrompue.
Nous aimons lire les ouvrages où il y a une liste de personnes prises dans une situation particulière et où on sait que l'une après l'autre, elles devront disparaître. Bon, je ne parle même pas de ces jeux de télé-réalité qu'on nous propose aujourd'hui, où on pratique des éliminations progressives. Mais après tout, c'est tout à fait semblable au phénomène de la liste. C'est la même pulsion, peut-être mauvaise, mais pulsion cognitive ou autre, qui se trouve satisfaite. C'est-à-dire, on voit un ensemble et peu à peu, on met des croix sur les différents... Les différents items et donc des croix sur les listes des noms qui correspondent. Chez Sade, on trouve la même chose dans certains de ses textes et une romancière, auteure de romans policiers, a pratiqué avec un art consommé ce genre de figure, a exploité ce genre de figure littéraire. C'est Agatha Christie.
C'est Agatha Christie. Oui, les 10 petits nègres d'Agatha Christie, pour évoquer donc ce roman, m'a intéressé à plusieurs égards. C'est un roman, je ne sais pas si on le lit encore, bon, mais qui est, je crois, justement célèbre. Je crois qu'on ne peut plus refaire ce roman. Une fois qu'il a été fait une fois, on ne le refait plus. Par différence avec d'autres types de textes, comme Le couperet de Westlake, ou bien La mariée était en noir de Truffaut, qui est un film, mais qui repose sur l'idée que quelqu'un dont on connaît d'emblée l'identité, va éliminer un certain nombre de personnes pour telle et telle raison. Et on se demande s'il va y arriver, comment ça va se passer, s'il aura des remords, si ceci, si cela. Bon, et on peut de nouveau faire des livres, des films, des fictions avec ce principe-là. Pour les 10 petits nègres d'Agatha Christie, je crois que ça ne peut pas être répété, parce qu'une fois que c'était fait une fois, c'est terminé. Puisqu'il s'agit ici à la fois de présenter l'allure de liste, et de la gommer, de la présenter parce qu'on a 10 personnes enfermées sur une île, coupées du monde, et dans chaque chambre est affichée une comptine avec une liste de 10 individus qui vont mourir les uns après les autres. Donc d'une certaine manière, la structure de liste est présentée et le lecteur, quand il lit pour la première fois, au deuxième ou troisième décès, finit par comprendre que tout le monde va disparaître. Et en même temps, l'énigme est, comment est-il possible? Qui fait ça? Quel est l'auteur de cette élimination enfin, j'ose pas dire rationnelle, mais en tout cas systématique.
Vous avez mentionné tout à l'heure le caractère de agressif et de combat que les listes peuvent parfois avoir. Celui qui a magnifiquement utilisé cette ressource de la liste est Pascal dans les provinciales.
Tout à fait.
Puisqu'il fait des juxtapositions de noms qui montrent les nobles anciens et puis et d'autres auteurs de second ou troisième rang. Mais ne peut-on pas dire que la liste a aussi la capacité, lorsqu'elle est rédigée, par exemple, par un poète ou un romancier, de faire apparaître, en raison de la discontinuité qu'elle établit entre les mots, de faire apparaître le mot comme il apparaît rarement dans la phrase et enchâssé dans une syntaxe. N'y a-t-il pas, la liste n'a-t-elle pas une puissance de révélation de la force poétique du mot, Bernard Sèvres ?
Je suis tout à fait de votre avis. Je dirais, la liste réussit. Et je vous dis d'emblée que je ne saurais pas répondre à une éventuelle question qui serait « qu'est-ce qu'une liste réussie ?» Parce que ça dépend de trop de facteurs que je ne saurais pas expliquer ou énumérer rapidement. Effectivement, le paradoxe de la liste, c'est que d'un côté, le mot est réduit à lui-même, puisqu'il est tout nu. Il n'est pas pris dans le filet d'une pensée, d'une syntaxe. Bon, et donc il est tout nu, il est tout pauvre. Bon, il est réduit à l'état de dictionnaire, à son état dans le dictionnaire. Et d'un autre côté, dans certains cas, qui sont les cas de très grande réussite littéraire de la liste, et Dieu merci, il y en a quand même beaucoup, mais dans certains cas, le mot d'un seul coup va se trouver poétisé. Je suis un peu appuyé sur les analyses de, même beaucoup, de Gérard Genette, notamment son très bel article sur Le Jour, la Nuit, où il montre comment des mots peuvent être ainsi, comment dirais-je, propulsés à l'état poétique. Enfin, il ne parlerait pas comme ça, excusez-moi, c'est une manière un peu commode de parler, précisément par un certain mode de présentation et d'utilisation dans la phrase. Et la liste peut arriver, parce qu'une liste peut être extrêmement ennuyeuse, hein, mais la liste peut arriver sous la plume de certains écrivains, de certains poètes ou de certains auteurs de théâtre, d'ailleurs, donner à un mot une puissance extraordinaire. Le mot devient presque une chose.
Une chose en soi.
Le mot devient une chose en soi. Et c'est le cas chez Proust, par exemple.
Proust, Bayeux, Vitré, Lamballe, Coutances, Lannion. On ne peut plus entendre les noms de ces villes comme simplement des moyens de désigner une agglomération. Ces noms ont pris une sorte de puissance propre.
Et Vitré, il évoque le vitrail, Coutances, la mode de beurre. Enfin, je ne sais plus exactement quelles sont ces associations. Mais ces mots dans la liste sont chargés effectivement d'un sens. Bon, les noms de pays de Proust.
Alors venons-en à Montaigne, qui est tout de même, je le crois, un des inspirateurs de ce travail sur la philosophie de la liste. En quoi Montaigne est-il exemplaire, dire d'usage de liste, dans l'usage de liste?
Montaigne est un cas exemplaire parce que je crois qu'il n'a pas de complaisance envers les listes. C'est vrai que je suis beaucoup venu à la question des listes par Jacques Goudy tout à l'heure et aussi par Montaigne. Montaigne n'est pas du tout un fanatique des listes. D'un autre côté, son projet lui-même, d'une certaine façon, a un rapport avec la liste. Puisqu'écrire les essais, c'est écrire, non pas au jour le jour, parce que c'était très discontinu son écriture, mais c'est écrire les choses un peu comme elles viennent. Et quand il dit qu'il fait un registre des essais de sa pensée, il y a l'idée d'une inscription. Mais surtout, ce qui m'intéresse beaucoup chez Montaigne, c'est qu'il n'a pas de complaisance envers les listes, d'une part, et qu'il en fait un usage extraordinairement différencié, d'autre part. Un usage réfutatif, dans ses moments sceptiques. Un usage ludique, parfois un usage érotique. Un usage, je dirais, de célébration humaniste. Des activités humaines. Certaines listes, d'ailleurs, ont plusieurs fonctions. Je pense à cette liste extraordinaire qu'on trouve dans l'Apologie de Raymond Sebon, où Montaigne décrit tout ce que, avec les mains, nous pouvons signifier, sans le langage oral. Et c'est à la fois un argument sceptique pour dire les animaux peuvent avoir une intelligence et communiquer entre eux, puisque même sans le langage oral, nous Nous autres hommes, avec les mains, nous pouvons faire des choses de ce type. Mais c'est aussi une sorte de célébration de la puissance expressive du corps humain. Et il y a quelque chose d'extraordinairement profond dans la manière dont Montaigne use des listes, dont, encore une fois, dont il n'abuse jamais. Il n'y en a pas tant que ça dans les essais, mais celles qui y sont extraordinaires.
Un dernier mot sur la critique. Les philosophes ont fait des listes, en particulier Descartes. Évidemment fort critique à l'égard de la tradition doxographique. Diogène Laërce, rédigeant une notice sur Platon, se croit obligé de faire la liste de tous les philosophes qui se sont appelés Platon dans l'Antiquité. Ça n'apporte absolument rien au sujet, mais c'est une chose qu'il ne pouvait pas ne pas faire, étant donné les règles de la pratique doxographique. La liste, c'est tout de même le mot séparé, mais aussi la pensée détachée, c'est-à-dire un des objets de la critique cartésienne.
Tout à fait, la critique cartésienne, de la critique hegelienne et de nombreuses autres critiques, tout à fait. Et c'est pourquoi je suis aussi d'accord avec la critique philosophique des listes. La liste, c'est la logique du discontinu. Et c'est donc aussi l'émiettement, le renoncement, une pensée conséquente à une pensée ample, ambitieuse, une pensée qui a le temps de se construire. La liste n'est pas une véritable construction. Une construction, c'est pas mettre des pierres les unes sur les autres. C'est avoir un projet d'ensemble. Et donc, ça ne me choque pas que nous concluions notre discussion par une critique des listes. La liste ne doit pas envahir tout le champ de l'écriture et de la pensée.
Oui, mais Leibniz a trouvé une voie de conciliation. Il a beaucoup pratiqué les listes tout en acquiesçant totalement à la critique cartésienne. Vous concluez votre ouvrage sur une critique au fond des index dont sont pourvus tous les livres de philosophie, oui, et de philosophie méditante et exerçante. Donc là, on est au cœur d'un certain paradoxe, mais parce que l'index, si on en fait un usage plat, empêche d'entrer dans une démarche.
Tout à fait, et dispense de lire le livre.
Mais d'un autre côté, qui peut contester sa commodité ?
Ah mais je ne conteste pas l'usage des index, c'est extrêmement commode, mais ça ne peut pas remplacer la lecture. La vraie lecture de fond, de A à Z, du premier mot au dernier mot du livre qu'on a sous les yeux.
Voilà, une magnifique profession de pouvoir cartésienne, si on peut dire, pour l'auteur d'une philosophie des listes. Merci Bernard Sèvre pour cet entretien. Merci à Luc Jean-Reynaud et à Stéphane Touvenin, qui étaient à la réalisation et à la technique.